France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission, assistée de Claire-Sophie Collet, sans oublier Jean-Christophe Pinaza, Fabrice Desmaz, Mathias Saléon nous accompagne à la technique, et sans plus tarder, vœux à volonté et musique. Approchez, approchez, c'est l'occasion de faire du neuf, départ de l'édition 2009, de la course autour du soleil en 365 jours et des poussières d'étoiles, une épreuve de grosse mer sans assistance, sans escale et sans publicité après 20h. Mais une édition 2009 qui se court en solidaire, obligé, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous dans le même navire, sur cette petite planète belle comme un cœur qui parfois chavire. Et comme il fait froid partout, qu'on a besoin de se faire du bien, de se faire de la chaleur, tant pis pour le CO2 si on se sert de près encore un peu. On a besoin d'y croire, on a besoin d'inventer autre chose, de laisser ce marché pourri jusqu'à la moelle. Heureusement, on invente déjà de nouvelles façons d'être au monde. On essaye, on hisse des petites et des grandes voiles. Alors bien sûr, on ne voit pas encore très bien la forme, le dessin, mais dans les têtes, ça germe, ça pousse. Allez, encore un effort! On commence à tuer le chacun pour soi, et parce que je le vaux bien, parce que je le vaux d'or, on allait se désintoxiquer, se dépétroliser, braquer avant le mur, revégétaliser nos neurones et mettre à la poubelle nos anciens disques durs. L'occasion de faire du neuf. Alors à vous tous, auditeurs d'Inter, belle année 2009. Mais vous vous dites, où va-t-on? Dans cette émission qui sent son début d'année à plein nez, je paye ma redevance, je veux savoir, vais-je appliquer ou non le principe de précaution? Alors, dans cette émission triste et sévère, d'écologie austère bien sûr, je vous propose une pochette surprise. Chanson et écologie. Clé de sol, clé des champs, au coquelicot chantant, et pour débuter, un petit swing du président.
Président, je sais que tu le sais, mais je te le redis, comme ça c'est fait. On peut se parler, hein. Il faut à peu près 50 ans pour bien refroidir complètement. Un réacteur de taille moyenne d'une bonne centrale, genre comme les tiennes. Enfin, les nôtres, quoi. Si on stoppait le nucléaire. Si je te dis ça, ce n'est pas pour faire mon aigri ou des discours. Scientifique n'y pointe jamais, car même toi tu t'endormirais. Je te propose un truc facile, et après je te laisse tranquille. Je sais que c'est dur, mais tu peux le faire. Veux-tu stopper le nucléaire? Ce que tu devrais faire aussi au Congrès des Nations Unies. C'est dire modestement, les gars, y'a plus aucune centrale chez moi. Yop, tout balayé. Au début, je croyais vraiment contenter quelques mécontents. À force d'écouter tout le monde aussi. Mais j'ai trouvé ça fantastique. And I say no bombes atomiques. Babacouz en Birkenstock, jeunes allemandes non épilées, contre catholiques, pratiquants vendéens et jeunes curés, marchands d'uranium, socialistes, humanistes convaincus, ex-femmes de ZZ Top, anciens barbus. Ils hurlent tous, et l'armement, que va-t-on faire de nos savants? Ah bah oui, ça c'est un problème. Tu leur réponds, vous êtes tarés, vos centrales ont explosé, cancer de la thyroïde. Et puis tu fais semblant de sortir et tu les laisses réagir. Regarde, regarde, regarde. Tu seras étonné de les voir te courir après dans le couloir. Par deux, trois teigneux dangereux et cinq ou six mecs ennuyeux. Beaucoup qui pensent déjà comme toi se réveilleront et te diront: l'électricité va manquer, là c'est à toi de répliquer. Alors là tu sors ton joker, tu vas dire vraiment tout ce que t'as. les éoliennes justement. Ça fait du courant gratuitement. Pas de soucis, pas de calcaire, abandonnons le nucléaire, fermons les centrales pour de bon, pour nos enfants, c'était pas bon, et perdons une fois pour toutes la course à l'armement, et toute la terre nous criera victoire, on entrera dans l'histoire, à nous la gloire. Peace and love, mon président.
Je ne suis pas sûr qu'il se l'offre, hein, à mon avis, chez Areva, comme cadeau de Noël. Donc, c'était extrait de l'album exactement censé, Vérino, le swing du président. Alors, écologie et chansons, mais aussi un jardin, des pas, des mésanges planqués, des rouges-gorges frigorifiés, un par-dessus. Et par-dessous le par-dessus, un sage, un humain et les vœux de Jean-Marie Pelt, donc chez lui, en Lorraine, dans son jardin. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors nous sommes chez vous, là, c'est pas mal parce que quand même des vœux de ce début janvier dans votre jardin, à 25 km de Metz. Et alors, de la lumière, c'est quand même un très beau signe.
Oui, il fait très beau, oui, on a un très beau soleil, on a eu des périodes très sombres dans tout le nord de la France. Exceptionnellement sombre d'ailleurs, c'est le réchauffement climatique aussi qui modifie le climat, mais aujourd'hui il fait vraiment magnifique, c'est vraiment très beau.
D'ailleurs il y a qu'à voir aussi la quantité de mousse qu'il y a dans votre jardin, moi je le connais bien depuis des années, il n'y en avait pas eu autant. Hein,
donc... Oui, bah parce qu'il a fait très très humide, et donc la nature répond, très humide, donc des mousses.
Alors les hommes ont besoin quand même aussi de lumière, bien sûr au sens propre, on en a besoin, sinon
on déprime,
les fameuses dépressions saisonnières. Puis on en a aussi besoin d'une manière plus générale dans nos vies. Alors là, on est quand même dans une crise, ça va durer quand même un certain temps, faut pas se tromper. Qu'est-ce que vous avez un peu envie de dire ce début d'année ?
Il y a deux crises, il y a une crise économique et il y a une crise écologique. Alors, je n'ai qu'une inquiétude, mais très forte. Quand je regarde la télé, les économistes, les hommes politiques nous disent qu'il faut absolument relancer la croissance. Et sous-entendu, il faut que tout continue comme avant, après la crise. Je vois défiler d'innombrables experts en économie. Tous les soirs, il y en a un autre à la télévision. Alors hier, avant-hier, j'entendais un expert qui disait « Heureusement, nous avons la brique ». La brique, je ne sais pas ce que c'est. Donc je me suis renseigné. La brique, ce sont les émergents.
Oui. C'est le Brésil,
la Russie, l'Inde et la Chine. Ils sont émergents, évidemment, dans le domaine de l'économie. Puis alors je me suis dit, c'est la continuation de tous ces mots qui sont empruntés au bâtiment maintenant. Alors ça c'est une nouvelle mode, c'est très très curieux. Tout le monde se construit. Et puis quand il y a des pertes d'emplois, on dit l'économie a détruit des emplois. On ne dit pas la supprimer, mais détruit. Alors c'est très curieux. Les philosophes disent la mode c'est la déconstruction. Tout ce qu'on dit les précédents, on va faire le contraire. Alors on est dans ce vocabulaire étrange où on est à perpétuité dans le bâtiment.
Nous avons une télévision qui est tenue par un maçon, c'est normal, c'est la plus importante, c'est ça.
C'est ça,
ah oui.
C'est le langage de M. Bouygues qui a contaminé tous les langages, aussi bien de l'économie que de la philosophie que de la sociologie.
Ouais.
C'est très étonnant. Alors si on ne comprend pas qu'il ne faudra surtout pas faire... demain, comme on a fait jusque-là, en se souvenant que ce qu'on a fait jusque-là, c'est ce qui nous a mis dans le trou, en se souvenant que les hommes d'État nous ont tous fait, à droite comme à gauche, des dithyrambes sur le libéralisme, qui était vraiment le système qui allait sauver l'univers, le monde, l'humanité, etc. On a entendu que ça fait des années qu'on entend ça. Toujours la même chose.
Alors là, on va vous dire qu'on va quand même faire de la régulation. On devient d'un seul coup très, très keynésien, quoi. Adam Smith, hop, à la poubelle. Et puis quand même, là, on dit, oui, mais quand même, l'État va intervenir. On garde le même système, mais l'État va intervenir.
Oh, mais le moins longtemps possible. Pour quelque temps, juste pour renflouer les gens qui étaient très riches et qui devenaient pauvres. La grande idée de M. Bush, c'était de diminuer les impôts des PDG et des riches. Et puis quand ça va mal, alors tout le monde se précipite dans les bras des chefs d'État pour que les États payent. C'est quand même un système immoral.
Oui.
Et qui part dessus le marché, c'est dévoyé. Alors le dévoiement. Alors ça, c'est les petits malins, les traders, les, tout cet univers extraordinaire de gens qui montent des coups, qui ensuite se retournent contre les petits épargnants. Tout ça, c'est très immoral. Il ne faut plus faire comme ça.
Alors que vous n'êtes pas du tout ni contre l'émulation qui est saine,
tout
ni contre l'entreprise en général. Quoi,
pas du tout. Mais je suis contre cette grosse finance spéculative qui n'a absolument rien à voir avec l'entreprise d'un électricien ou moyenne entreprise. Ça n'a rien à voir du tout.
Alors Jean-Marie, donc les pistes, là où on a du vert qui est partout, hein, on a quand même du vert pâle parce que c'est l'hiver, mais quand même, on a du vert sous les yeux, c'est peut-être symbolique ça aussi. On a aussi un gros camion qui passe d'ailleurs, parce qu'effectivement comme l'énergie coûte toujours pas cher, de toute façon on a encore plus de camions. Après.
Les pistes, alors moi je vois trois pistes. La première, à mes yeux, c'est d'aller vers cette révolution vers le développement durable, de construire des maisons qui consomment peu d'énergie, d'aller résolument vers les énergies renouvelables, pas se lancer à fond brusquement dans les agrocarburants, puis se dire « zut, on s'est trompé, donc c'est plus comme ça qu'il faut faire ». Et ça, c'est une piste qui, pour moi, est tout à fait majeure. Il faut
qui d'ailleurs est aussi issu du Grenelle de l'environnement, qui était déjà parti, mais si elle est vraiment appliquée, ça peut être intéressant.
Ça peut être tout à fait intéressant, ça peut créer beaucoup d'emplois. Il faut savoir aussi que si nous avons la crise automobile, c'est parce que, c'est pas une méchanceté, les constructeurs n'ont pas anticipé l'évolution des mentalités. Pour un constructeur, ce qui était important, c'était l'électronique dans la voiture. C'est-à-dire la voiture qui parle, qui vous raconte des histoires, avec qui vous pouvez gérer votre vie affective. C'est ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas compris que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Il fallait faire des voitures qui consomment peu, qui fassent faire des économies de carburant à la pompe, à ceux qui les utilisent, et qui, par conséquent, diminuent les dégagements de gaz à effet de serre.
Oui, et puis aussi changer peut-être de motorisation.
Donc. Voilà, tout à fait. Donc, ils n'ont pas anticipé. Et
on a des 4x4 français, maintenant ils sont français, mais
ben oui.
On les a sur les bras.
Mais voilà, quand on n'anticipe pas et qu'on ne suit pas les tendances de fond de l'opinion, on se trompe. Donc ça, c'est la première piste, c'est le développement durable, c'est le recyclage aussi. Enfin,
développement durable, bien compris. On est
bien compris,
ce mot-là, évidemment,
il est
un peu de son sens.
Donc. Il est parfois vidé de son sens. La deuxième piste, c'est de se dire on ne peut pas laisser comme ça plus de la moitié de l'humanité dans des situations lamentables où les besoins élémentaires en santé, en alimentation ne sont pas satisfaits. On doit faire une agriculture durable pour ces pays-là, pour qu'ils soient autosuffisants. On doit beaucoup, beaucoup investir par conséquent dans les échanges entre les pays du Nord et les pays du Sud.
Ça veut dire partager tout ça, hein.
Oui, c'est le contraire de l'idéologie de la compétition. C'est l'idéologie de la solidarité et du partage. Ça, c'est une deuxième piste qui devrait devenir prioritaire. Parce qu'on sait que de toute façon, on ne pourra pas amener le monde entier à vivre comme les Américains. C'est impossible. La troisième piste, que je crois très très importante, c'est l'aide à la personne. Il y a de plus en plus de gens âgés. Je pense que la solidarité, c'est pas seulement la communication, se dire au téléphone « Salut, t'es où ? Dans le bus, tu rentres ?»« Oui, oui, je rentre, oui, ciao, ciao !» Non, mais c'est pas ça, la solidarité. C'est rien, ça. La solidarité, c'est vraiment qu'on s'occupe les uns des autres, qu'on s'occupe de nos enfants. Je suis tellement inquiet pour la jeunesse. Moi, j'aime les jeunes, mais quand je vois ce que cette société, si fière d'elle, leur offre, la galère, c'est très nul, quoi. Et les jeunes disent c'est nul, ben, ils ont raison. Et notre génération est responsable de n'avoir pas fait de place pour les jeunes. Et puis, je pense à ces personnes âgées aussi qui sont dans les mouroirs. C'est très nul aussi, ça. Moi, je disais qu'à Gênes, les personnes âgées avaient des étudiants chez eux qui s'occupaient d'elles et ils étaient logés gratuitement, soit avaient des maisons qui étaient accolées à des écoles maternelles et les grands-mères et les mamies racontaient des histoires aux enfants. Ça, c'est très beau. C'est une piste importante qui n'est pas d'ordre matériel, qui est d'ordre du partage de l'esprit. Voilà trois pistes.
Alors Jean-Marie, c'est vrai que vous parliez à la fois de crise écologique, de crise économique derrière tout ça, évidemment. C'est une crise morale aussi de la société, quoi.
Mais non, la crise de fond de la société est une crise morale, naturellement. C'est-à-dire qu'on a peur de mettre en avant les grandes valeurs traditionnelles qui sont la volonté de vivre ensemble, la solidarité, l'équité, l'alliance avec la nature, la recherche de la paix, la miséricorde dans l'accueil d'autrui, la capacité de pardonner, ce qui fait qu'on ne fait pas la guerre et tout ça. Mais toutes ces valeurs, elles ne sont pas là. Personne n'en parle jamais. Quand je fais des conférences aux jeunes dans le lycée, ils me disent tous la même chose. Comment ça se fait que personne ne nous dit jamais ça? Ben non, on ne dit jamais ça. On dit toujours la même chose. On raconte que les hommes politiques ont des ambitions, mais ça on le voit, c'est même pas la peine de le dire. Et puis on est dans l'économisme. Et je terminerai par une question. Est-ce que l'économie est vraiment une science sûre de ses concepts? Eh bien, j'en suis pas sûr. Et je trouve que ça serait bien que nos amis économistes se reposent des questions sur leur science à eux.
Nous ne sommes pas loin de vos pommiers, donc qui est tout déplumé, c'est normal, puisque nous sommes en hiver. Enfin, on est en hiver depuis 3-4 mois,
oui.
Ici, manifestement. Et donc, on a ces petites pommes qui sont presque découpées dans le ciel,
oui.
Avec votre forêt qui est juste derrière. C'est très beau, il y a un très léger balancement, il y a très très peu de vent. Et c'est très joli, et avec le rayon de soleil qui est derrière...
Oui.
Bah, ça suffit pour qu'on soit heureux. Hein,
oui.
Sans faire du minimalisme comme ça. Mais c'est...
Oui, mais nous avons un renard dans le jardin qui vient le matin.
Ah, oui.
Oui, on a vu ses traces quand il y avait de la neige. Il y a eu de la neige pendant 2 jours. Oui, parce qu'il n'y a plus de neige non plus. Il y a de la neige dans toute la France, sauf en Lorraine. C'est extraordinaire aussi. Alors, il y avait de la neige 2 jours. On a vu les traces du renard. Puis, on a vu la trace d'un lièvre. Puis on a suivi les traces avec ma bonne Sabine qui fait le jardin et qui connaît tous les habitants du jardin. Nous avons un jardin avec une vaste population, avec beaucoup d'oiseaux aussi. Parce que d'abord, on ne met pas de chimie, puis on les laisse relativement tranquilles. Moi, je fais ma petite promenade, mais ils sont chez eux ici.
Je vois votre chat blanc là, qui ne ressemble pas à un renard, mais qui... on le repère bien, lui.
C'est Félix.
C'est Félix, oui, c'est ça. Tandis que quand il y a de la neige, on ne le voit pas. Tandis que,
Et quand il y a de la neige, on ne le voit pas, il est tout blanc.
Il est tout blanc, là, non. Bon, il fait ses besoins tranquilles. Oui, on ne te perturbe pas, mon bonhomme. Non, ça va, il va très bien.
C'est notre chat.
Ah oui, il est bien.
Je l'aime beaucoup.
Il est bio aussi, celui-là.
Oui, il n'aime pas que je lise.
Ah, il aime pas, oui.
Non, dès que je lis, il vient sur mes genoux et il pousse le livre pour que je m'occupe de lui et pas du livre.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Il veut ruiner votre carrière.
Oui, oui.
Et là, il avait dit que je te gratte.
Voilà.
Et c'est bien.
Et il faut vivre avec.
Ben, bien sûr.
Mais on vit avec notre petit chat. Et je pense alors... in fine, que peut-être nous allons subir les affres de l'apocalypse. Et puis derrière,
il y a... Cool, attendez,
derrière,
là, on est mi-janvier, là.
Derrière, il y a la terre nouvelle,
ah, oui,
les cieux nouveaux. Et comme disait mon ami Penda Kepel, elle dit, ma grand-mère disait toujours un vieux proverbe Peul, Penda, tout finira par s'arranger. Et c'est très beau, et je crois que c'est vrai par-dessus le marché.
Oui. On va souhaiter quoi? Donc une belle année à
une
tout le
belle
monde.
Année à tous, oui. Oui.
La ville écrase la forêt pour y installer son décor, sans songer au bruit que ferait le chant de tous les oiseaux morts. On cimente le paysage, on bétonne les horizons, nous voici arrivés à l'âge de raison. Le petit sentier de l'école est une autoroute à 6 voies qui mène à la piste d'envol où les Boeing hurlent de joie. Il y a du goudron sur la plage et du gasoil sur le gazon. Nous voici arrivés à l'âge de raison. Les décibels nous assassinent, les scooters nous bouffent le cœur et la télé dans les cuisines nous explique notre bonheur. Quand on veut rêver, les nuages ont la forme de champignons. Nous voici arrivés à l'âge de raison. Rien à faire, petit bonhomme, mets ta tête sous l'oreiller. Grand-mère a bouffé une pomme et c'est à nous de la payer.
Tiens-toi tranquille, reste sage, enfoui au creux de ta maison. Et laisse, laisse passer l'âge de raison.
C'est quand même un texte qui a dû être écrit il y a une quarantaine d'années, donc par Francis Blanche, « L'âge de raison », et non pas écrit en 2009. Alors, Alain Souchon, petite rediffusion avec Théodore Monod. Bon, Souchon, c'est pas un militant, c'est pas un écologiste, c'est en revanche quelqu'un qui a une sensibilité qui est tout à fait extrême, c'est un amoureux de la nature, un homme qui sait qu'à l'origine de toute création artistique, eh bien, il y a aussi cette fameuse nature. Et donc, vous allez le retrouver, je dirais, comme d'habitude, c'est-à-dire subtilement désenchanté. Juste un type qui essaye, bah, comme nous, il essaye de vivre un peu comme il peut. Le nouvel album s'appelle « Écoutez d'où ma peine vient », mais là, c'était il y a 4 ans, au moment de la vie Théodore, et donc nous avions commencé ainsi. Cher Alain Souchon, bonjour.
Bonjour.
On est ravis parce qu'on va se prendre un grand bol de nature, un grand bol de Souchon, pas un grand bol de thé. Je me suis dit que pourtant, en parlant de Théodore Monod avec le désert, ça aurait été pas mal, mais c'est pas forcément votre boisson là aujourd'hui, le thé.
Non, mais pas aujourd'hui. Mais en général, oui, plutôt, j'aime bien le thé. Mais là, c'est de l'eau pure.
C'est bien aussi. Et en plus, c'est quand même extrêmement rare. C'est-à-dire qu'on va, malheureusement, on a déjà commencé à se battre pour l'eau. Quand on voit comment les gens se baillent pour le pétrole, on se dit, qu'est-ce que
non,
ça va être
les choses, on est dans un monde où les choses essentielles et de base, qui ne coûtent rien, comme l'air et l'eau, sont devenues le luxe. Et le silence.
C'est ça.
Le silence, l'air et l'eau, c'est le grand luxe.
Alors ce luxe-là, vous adorez, vous le trouvez lorsque vous faites de la marche. Alors ça peut être un point commun, bon, un peu éloigné de Théodore Monod, mais ça, vous êtes marcheur, vous aimez ça, vous marchez.
Bon, j'aime la nature, la solitude, la tranquillité, l'effort physique, donc la marche. Mais je ne peux pas dire que je suis un marcheur forcené avec un podomètre et que
oui,
j'aime bien le nez au vent, quoi. Et puis j'aime bien aussi... J'ai été élevé un peu par un frère qui était guide de montagne, donc je l'accompagnais beaucoup dans les refuges. Avant d'aller faire les courses difficiles du lendemain, il allait coucher dans un refuge, et donc je l'accompagnais parce qu'il avait 2-3 heures de marche à faire qui n'était pas très marrant, donc j'allais avec lui pour lui tenir compagnie.
Il était un peu sherpa, quoi. Enfin,
un petit peu. J'ai été aussi avec un monsieur qui mesurait les glaciers, alors je portais son trépied, c'était du matériel un peu à l'ancienne avec un trépied, je me souviens.
C'était où, ça, dans les Alpes?
Ça, c'était au glacier des Bossons à Chamonix. J'aime bien la ville et son grouillement et sa folie, son bouillonnement, son effervescence. Et puis, pouvoir m'en sortir et partir, m'asseoir à l'ombre d'une haie, même en Île-de-France, dans le calme.
Oh, libellule si délicate, oh, les mésanges, petites pattes, gentil coquelicot, pardon, chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans l'aubépine, les enfants, pardon.
Vous avez besoin quand même de nature, je sais pas, alors c'est quoi, c'est pour être contemplatif, pour être tout seul, pour laisser les idées mûrir, c'est parce que c'est notre matrice, parce que vous l'avez quand même dit aussi, hein, dans la chanson Pardon, bah oui, notre mère volante, voilà.
Terre, avec... terre, notre mère volante, et oui, ben c'est vrai, et c'est toujours marrant de penser qu'on est sur cette terre qui est lancée dans l'espace à toute allure comme un bolide, parce qu'on va très vite dans l'espace,
vite, oui.
On s'en rend pas compte.
Alors vous, lorsque vous partez aussi, il y a quand même un coin important, c'est la Touraine.
Ah oui, je vais beaucoup en Touraine, oui. J'ai une maison là-bas, près de Blois. Bon, là-bas, c'est un pays qui dégénère, qui était agricole, et où c'était de la polyculture avec des asperges, des haricots, des cornichons, une petite culture comme ça. Et maintenant, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus que les paysans veulent vendre les champs agricoles pour en faire de l'immobilier, pour vendre, pour qu'on construise des maisons. Donc, ce pauvre pays, on construit à n'importe quel beau paysage qui s'étend jusqu'à une forêt. Toc, il y a quatre maisons dessus. Je ne comprends pas comment il n'y a pas une politique de cohésion, de mettre les villages, d'agrandir les villages, bien parce sûr, que c'est bien de construire et tout, mais en agrandissant les villages, en construisant des étangs et des plantations, qu'il y ait une politique cohérente, quoi, plutôt que d'abîmer le paysage comme ça. Surtout ce beau pays qui était très fréquenté par les étrangers, les Américains, les Anglais, qui venaient voir les châteaux de la Loire, et maintenant la campagne est toute abîmée.
On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement, alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore dehors, 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 dehors. Marcher dans le désert, marcher dans les pierres, marcher des journées entières, marcher dans dormir dehors, coucher sur le sable d'or, les satellites et les météores. Dormir dehors, il faut un minimum, une Bible, un cœur d'homme, un petit gobelet d'aluminium. On s'ennuie tellement, on s'ennuie tellement.
Ce que je vous propose, Alain Souchon, c'est quand même d'écouter cet homme qui est Théodore Monod. C'était quand même un scientifique tout à fait complet, puisqu'il était zoologiste, paléontologue, géologue, il doit manquer encore plein de noms en log, mais c'était un type vraiment, c'était le savant, quoi. Et cet homme-là, en fait, vous arriviez dans son bureau au Muséum d'Histoire Naturelle, il avait des problèmes d'oreille, de surdité, il avait sa cécité, mais il vous entendait toujours. Et puis il disait, bon, asseyez-vous là, et puis, alors, on enregistre, mais pas trop longtemps, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il avait 90 ans. Il n'arrêtait pas avec sa curiosité, mais vraiment, c'était incroyable.
Que l'homme s'occupe de défendre la nature, il serait grand temps, d'ailleurs. Seulement, tant que nous vivrons dans une société, structure sociale, qui repose directement sur l'argent et sur le profit, une quantité de choses souhaitables ne se feront jamais. D'ailleurs, le mot environnement, moi, je l'aime pas, je l'emploie pas personnellement. D'abord parce que c'est le mot anglais qui traduit le mot français milieu. Et puis environnement, ça, c'est très souvent extrêmement anthropique. Il paraît que le quai du métro est un environnement. Moi, je veux bien, je préfère qu'il soit propre et pas malodorant. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la nature, la vie. Bon, c'est la vie qui m'intéresse en réalité. Mais révérence devant la vie. Ça, c'est quelque chose de plus. Et mon ami Taillard disait, je suis à la fois un fils de la terre et un enfant du ciel. Et il parlait aussi de la différence entre l'en avant et l'en haut. Et moi, je suis très, très, très disposé à accepter une conviction de ce genre-là, qui accroît énormément les dimensions de la destinée humaine.
Alors c'est fabuleux parce que quand il parle de son ami Théard, c'est Théard de Chardin.
Quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, on ne comprenait pas. Oui, d'accord.
On est quand même tout de suite dans une autre dimension avec cet homme-là. Et c'est ça, c'était révérence faite donc à la vie et à la nature. Oui. Alors cet homme-là, vous l'avez rencontré. À travers ses écrits, à travers les émissions.
À travers un reportage à la télévision sur lui où je le voyais marcher puis parler d'une manière simple et profonde, et j'ai trouvé qu'il avait une belle tête, et j'ai trouvé que que la vie qu'il avait, elle est exemplaire. Il y a des gens comme ça qui vous fascinent, comme l'abbé Pierre, ou qu'on se dit, mais comment c'est possible? Moi, j'aurais jamais pu vivre comme ça. Lui, il était savant, et tous les gens qui sont brillants dans le domaine scientifique aiment bien les honneurs et la vie en société où on les révère un peu, et... plutôt que d'aller avec des gros godillots au milieu du désert, coucher sous la tente et prier, j'aurais aimé, dans une autre vie, avec d'autres compétences, pouvoir faire.
Il fout le camp dans le désert aussi, avec un petit gobelet d'aluminium, une Bible et un cœur d'homme, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Oui, je trouve ça admirable, j'adore ça. C'est exemplaire, on en est loin de tout ça. Nous, moi, je suis un petit égoïste qui aime bien le Paris-Brest et qui aime bien, des fois, faire de la vitesse sur l'autoroute en voiture ou des bêtises comme ça, quoi. Et ces gens-là, ben non, ils ont conduit leur vie différemment et c'est admirable.
C'est un homme, en fait, qui, lui, n'a pas eu que l'envie de la foi. Il a eu la foi. 5 générations de protestantisme derrière lui. Et au dernier moment, il savait de toute façon qu'il serait sauvé, cet homme-là. C'est assez extraordinaire.
Ben, c'est ça, la foi. C'est cette espèce de confiance sentimentale dans le ciel. Qu'on est sur la bonne voie. Alors... Mais en même temps, il était suffisamment intelligent pour douter, certainement aussi, comme tous les grands chrétiens, il y a des moments de doute. Quoi.
Et on va partir avec lui, là, cette fois-ci, dans le désert. Professeur, lorsque vous avez découvert, vous avez cherché à découvrir le Sahara, c'était pas du tout pour des raisons d'aventurier, c'est pas ça qui vous a animé du tout.
Non, d'ailleurs, j'aime pas beaucoup le mot d'aventurier, parce que... Il est un peu galvaudé actuellement.
Ça veut dire qu'on obéit au Sahara ?
On obtempère. Ah, oui. On ne commande pas, on obtempère. Oui. Et il faut se méfier parce qu'on peut avoir le hasard contre soi. Et quand on s'est lancé dans une affaire de 800 km sans eau, avec son chameau et deux bédouins, il faut être certain d'arriver de l'autre côté. C'est une vie sympathique et saine. Et puis c'est ce qui est extraordinaire dans le Sahara, c'est parce qu'il n'y a pas de trace de l'activité humaine. Mm-hmm. C'est la nature telle qu'elle était avant l'homme. Les dunes, les montagnes, etc. Mais c'est aussi ce que sera le spectacle si l'homme disparaissait. Après l'homme, ce sera comme ça.
C'est drôle de dire après l'homme. Parce que c'est pas dans la... Les gens ne disent pas ça, personne ne dit après l'homme. On peut dire avant l'homme, mais après l'homme, on imagine que l'homme... L'homme est éternel, enfin, je veux dire, l'humanité, on n'envisage pas ça.
Peut-être qu'il considère que l'homme était une aimable parenthèse dans l'histoire de la Terre qui a 4 milliards et demi d'années, c'était ça. Et puis, de se dire que tout ce qu'on appelle la biodiversité est quand même en train de foutre le camp à vitesse grand V, et là, c'est effectivement l'homme qui est quand même assez responsable. Et il s'était dit que peut-être derrière nous, ce seront les céphalopodes, les poulpes qui resteront là. Il y aura toujours la nature, mais ce sera une nature différente. Quoi. Donc c'est une hypothèse aussi, que l'homme disparaisse un jour. Et pour nous, c'est incompréhensible. Vous voyez,
c'est incompréhensible, impensable. Mais c'est vrai que je comprends très bien ce qu'il veut dire quand il est ému du fait qu'il n'y ait pas d'homme dans le désert. C'est des endroits où il n'y a pas l'homme. Donc, quelque chose d'un peu pur, puisque l'homme corrompt la nature, puisque son ambition est de dominer la nature. Oui. Et tout. Donc, c'est des endroits...
Rechercher le profit et protéger la vie, c'est quand même une équation qui ne paraît pas tenable aujourd'hui. Ça, c'est plus possible, ça.
Le profit à gogo. Oui, mais ça, c'est des problèmes. Moi, je ne sais pas répondre à ça. Oui. Je veux dire que on a l'impression que la roue tourne malgré nous, qu'il faut que l'économie marche. On s'est mis dans une telle... que vouloir changer le monde et dire il faut que le capitalisme s'en aille parce que c'est sauvage, c'est trop rude, c'est trop dur et tout ça. On a l'impression qu'on ne peut plus. Qu'on ne peut plus revenir en arrière. Alors il faut soi-même être un peu de la lumière, essayer d'être un peu de lumière, d'aimer, de faire quelque chose pour la nature et pour les autres. Et puis, si chacun fait un peu ça, déjà, ça améliore un peu les choses.
Notre terre qui es aux cieux, je t'écris cette bluette en ces temps bien capricieux qui sévissent sur nos casquettes, en ces temps de marionnettes qui agitent sous tes cieux dieux et démons de pérettes fallacieux. Je me rappelle pourtant d'avoir marché sur ta lune, humain candide portant une promesse à la une, celle d'une autre fortune, celle d'une vie voguant vers des astres en lagune. Au firmament, seulement nous jouons encore aux cow-boys et aux indiens, au concours de matamore, au susucre à son chien-chien, Dieu reconnaîtra les siens. Mais attention, pas d'erreur, faut choisir le bon Dieu ou bien. Pampan t'es mort, à tous les saints les prophètes, c'est ta rondeur que je préfère, mon paradis a en fait. Ta bonne gueule d'atmosphère, petit terrien ordinaire, j'ai une fusée dans la tête, et tout un système solaire plein les lunettes. Notre terre qui est aux cieux.
La recherche d'une nouvelle conception de vie rejette résolument toute la tradition économique française qui débute avec la révolution industrielle, qui cherche à transformer le monde en augmentant la puissance des hommes sur le monde. Or, nous estimons que l'homme doit vivre dans le monde à côté des espèces vivantes, plantes et animaux autres que lui, sans vouloir les dominer, de façon à maintenir un monde vivable pour les générations futures, les représentants des non-nés.
Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai eu une gueule d'atmosphère? J'ai trouvé ça comique, une gueule de gaz carbonique. J'ai pensé que c'était bête, le réchauffement de la planète. Ça m'a fait des frissons, la combustion du charbon. Ça m'a mis en colère pour le système solaire. Ça m'a fait des frissons, la combustion du charbon. Ça m'a mis en colère pour le système solaire. Planisphère, planisphère, j'ai dans la tête un planisphère. Étoile et deux couleurs, et pour qui j'ai bien peur d'imaginer vos vies, mes enfants, mes chéris, avec des masques à gaz au cœur des forêts, raser des seaux et des pelles sur des plages poubelles. Avec des masques à gaz au cœur des forêts, raser des seaux et des pelles sur des plages poubelles.
Un extrait d'une chanson interprétée par un groupe qui s'appelle Le Facteur, Atmosphère. Ben oui, parce que l'effet de serre a fait son entrée dans la musique, dans les CD, les ordi, les MP3, sur les écrans, dans les romans, les polars, que sais-je, CO2, allez, chauffe la vie, thermomètre en folie. La vie, c'est du bingo, du loto, du casino. Mais t'as vu où ça mène de ne pas jouer les bons numéros? Eh oui. Depuis longtemps, un autre homme, l'ami Pierrot, clair de la terre, chante vers de colère, chante la corruption, les odeurs d'égout, mais attention, le tout en couleur et joyeusement.
Un parfait coquin pilotait un pétrolier avec des marins qui avaient jamais navigué. Sa poubelle pleine de fioul éclatée sur un rocher se déversait dans la houle, et le vieux de pleurnicher. Toi la mer, je te tue avec le bateau crevard d'un taulier corrompu qui court après les dollars. Je tords le cou à Neptune pour engraisser quelques ports. Pour de misérables thunes, je m'en vais semer la mort. Les présidents fiers dans un bureau se partagent le ciel et la terre en distingué géophage. Les indices en riant, si on prend vos OGM, vous oublierez certainement nos usines cancérigènes. toi planète, on te tue. Les dieux de la consommation sont formels, il n'y aura plus de profit sans pollution. Nous patrons notre culture, c'est pas vraiment la nature. On sait bien que ces petits bobos mettent en rage les écolos. Mais il y a de tels enjeux qu'en achetant les politiques, on vend nos viandes et nos œufs, 50% transgéniques. Les profits sont si grands que l'Europe des communautés, comme pour la vache folle avant, espère qu'on ne va pas les bruiter.
En 2050, on sera 10 milliards à table. C'est-à-dire qu'on va devoir comprendre que sur le petit vaisseau Terre, il va falloir qu'on vive en paix à 10 milliards d'habitants. Ce n'est pas gagné d'avance. Mm-hmm. Qu'il va falloir qu'on épargne les ressources rares, qu'on évite de saloper l'environnement et qu'on construise des vies satisfaisantes. Et ça, ça, dans ta vie, probablement le système politique va devoir changer. Et il va devoir changer parce que tu vas devoir inventer, toi et ta génération, un bond démocratique gigantesque. Vous allez devoir gérer la planète ensemble. La crise dans laquelle on rentre n'est pas la fin de l'histoire. Vous allez vivre une renaissance.
Voilà, Pierre Radagne, qui est un homme formidable, qui intervient régulièrement dans cette émission et qui donc s'adresse aux jeunes, donc qui donne de l'envie, hein, l'envie de vivre comme il faut ce siècle, certes qui a un petit peu mal commencé, mais en tout cas de façon tout à fait positive et argumentée. Alors la nature dans tout cela, eh bien la nature, oui, on l'aime, on la protège la nature. Comment ça, on s'essuie dessus comme sur un paillasson? Le nouveau parking de l'hypermarché, il y avait une mare avec des grenouilles, vous... Ah, mais vous êtes sûr? Ah oui, d'accord, parce que... Ben non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, elles sont dans le rayon surgelé. Eh ben oui, on vend des cuisses de grenouilles, c'est bien la preuve que nous aussi, on aime la nature, avec de l'ail et du persil, d'accord. Ils sont jamais contents, ces écolos. Tenez, par exemple, quand on leur parle de forêt.
Nous n'irons plus au bois, et les haies sont coupées. Car ici on pense qu'à la rentabilité. Oui, est assez.
Entrez dans la danse, oui. Voyez oui. Comme on danse.
Sautez, dansez, tronçonnez qui vous voudrez.
Ouais, voilà, youpi. Et donc après cette bluette bucolique débitée en serre par Vincent Malone, oui, toujours facétieux, eh bien on va prendre de l'air, on va respirer, souffler, inspirer avec un homme qui l'est pleinement jusqu'au bout des doigts. Vous le connaissez, Marc Perron, écoutez. Rien que pour vous dans Chanson et Écologie, donc ce petit air avec Marc Perron. Cher Marc, bonjour.
Bonjour.
Alors Marc, c'est vrai que vous avez toujours été imprégné de nature, imprégné de, je ne vais pas dire forcément d'écologie, mais lorsque l'on est face à un instrument comme celui-là, dites-nous pourquoi l'accordéon est un instrument, mais vraiment écologique.
Ah ben d'abord, c'est un instrument qui respire. Écoutez.
Waouh. Là, vous êtes dans le poumon de l'accordéon. Vous êtes dans le poumon, vous êtes dans son cœur. Voyez ?
Ouais. On dirait la mer. On dirait la mer. On dirait le vent sur la mer. Ben oui, quand on appuie sur l'accordéon, c'est un... L'intitulé de ces instruments-là dans les musées consacrés aux instruments, ça s'appelle un aérophone. Ça a donc à voir avec l'air. C'est un aérophone à soufflet et à hanche. À hanche libre, donc ouais. L'hanche, c'est ce qui fait le
fait vibrer.
La musique, ouais. Qui fait vibrer, qu'on appelle aussi des lames. Mm-hmm. Et on peut faire un jeu de mots facile, c'est que l'accordéon, c'est de la musique à lame.
Oui,
ouais. Ça souffle à lame. Voilà, donc c'est un instrument qui respire. Et on peut faire plein de choses très amusantes avec ce halètement de l'accordéon. Donc c'est un instrument qui utilise l'air et le bon air, moi je pense.
Oui, c'est ça. Alors, bon, c'est-à-dire, non, mais le vôtre va fonctionner aussi bien, on va dire, avec un air sûrement un peu pollué, un air parisien, un air oui, de grande alors, ville. Un air de...
Sur les airs pollués, on peut dire un truc. Quand on est accordéoniste, oui. Il y a une chose qui, à une époque, me frappait beaucoup. Quand je jouais dans les balles le samedi, le dimanche matin, je prenais mon accordéon et je l'ouvrais. il sortait une odeur de fumée, de tabac, absolument abominable, qui était une réminiscence de l'air que j'avais respiré toute la nuit.
C'est incroyable.
Voilà, c'est incroyable. Donc, fort heureusement, maintenant, on
ne fume plus. Bah oui, dans les
ça,
lieux
c'est
publics.
Une très bonne chose.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Mais c'est drôle comme cet instrument, finalement, bah, il enregistre à l'intérieur de lui-même l'air ambiant, quoi.
Ouais.
Et il le restitue. D'air plus brève, et puis je sais pas, s'amuser à faire du rythme avec le justement grâce à ça, imiter le train, pourquoi pas. Ah, là, c'est pas très écologique. Hein.
Le faire rentrer en gare tranquillement. Mais alors, vos origines italiennes, à la fois origine italienne et puis aussi donc la Courneuve, hein, donc la cité des 4000. Est-ce qu'il y avait quand même cité des 4000 et puis nature? On vous dit que ça va pas forcément très très bien ensemble. Quoique, vous avez eu des souvenirs aussi. Vous avez été imprégné comme ça de nature, d'environnement.
Oui, non, c'est curieux parce que moi, enfant des 4000, né les deux pieds dans le béton, on peut dire ça. Curieusement, après, je me suis passionné au début des années 70 pour les musiques traditionnelles. Donc, je suis allé à la campagne, rencontrer des vieux musiciens. Et je pense que, inconsciemment, j'ai voulu retrouver quelque chose du monde de mon père. Mon père venait d'une société agraire, dans des montagnes entre Cassino et Naples.
Ouais.
Et il me racontait souvent quelle était sa vie, comment ils allaient à pied, comment on vivait. Il n'y avait pas d'argent, ça c'est intéressant. Mais que les gens troquaient, ils échangeaient des œufs contre des lapins ou des poules. Enfin, cette vie auprès de la nature. Il me racontait comment ils pêchaient des truites dans la rivière en bas, comme ils allaient à pied du village à Cassine, où ça faisait 30 km aller, 30 km autour de montagne. Et il me parlait de ça, il me parlait des odeurs. Et tous les ans, j'allais en vacances là-bas. Et donc, j'étais plongé dans cette nature. Alors, j'avais deux univers dans ma tête, comme ça. Il y avait une espèce d'univers complètement fantasmé qui était là-bas, avec les oliviers, les figuiers, le soleil, des odeurs absolument incroyables. Et puis, quand j'entrais, il y avait les 4000. Et les 4000, c'était effectivement ma vue à la fenêtre des 4000, c'était plein ouest sur la plaine Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis, le fort de l'Est, le canal et tout ça. Mais curieusement, c'était un fatras. Moi, j'appelle ça le fatras de la modernité. C'est-à-dire que c'est les HLM, les usines, tout dans tous les sens, quoi. Une espèce de ce monde qui grouillait, quoi, mais qui était aussi la vie. Et puis, quand même, de ma fenêtre du 7e étage, 4000, j'avais tout l'horizon à 180 degrés devant moi.
Ah ouais.
Et quelque part, ça aussi, ça donne envie de nager dans l'air, quoi, d'y aller, quoi. Ça, c'est très important. Alors, curieusement, c'est pas un milieu très écologique. Bon, on sait, par exemple, quand ils ont dézingué les gazomètres de la ville de Paris que je voyais de ma fenêtre pour faire le Stade de France, à quel point le sol était... est encore peut-être
pollué,
c'est abominable. Mais moi, de ma fenêtre, je voyais tout ça. Et moi, ce que je retenais, c'était la vue, enfin, le regard qui pouvait aller à perte de vue.
Ouais.
Et puis l'envie de partir, de m'en aller. Puis quelque part, ça a été pour moi une manière de faire un lien entre le monde de là-bas, donc qui était un peu idéalisé, de la nature, de la campagne. Et puis, pour moi, il y avait comme un fil entre ce que je voyais de ma fenêtre des 4000 et puis ce que j'avais en tête de là-bas.
Alors, Marc va traduire en musique ce voyage donc entre l'Italie. C'est quelle province exactement?
C'est la Chocharia, c'est la Chochara, vous
savez. Ouais.
Hein, c'est entre les Molises et la Campanie. La Campanie, c'est la région de Naples. Et en gros, c'est le Latium, quoi.
D'accord. Voilà. Et puis, bien sûr, donc la Courneuve.
Thank you.
L'Italie maintenant.
Alors l'Italie. Je me suis mis à naviguer entre ces deux systèmes et petit à petit j'ai découvert qu'il y avait une même veine quoi, entre la musique populaire française et la musique populaire italienne, c'est la mélodie.
En ce début janvier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Marc Perronne ?
D'avoir beaucoup d'air dans mon accordéon.
Merci beaucoup, Marc Perronne, et puis à très bientôt.
Au revoir, Denis.
Petit cadeau de début d'année que cette balade de l'air donc avec Marc Perronne et son accordéon, ses accordéons. Merci à lui, vraiment merci beaucoup Marc. Et puis tenez, un petit mail assez sympathique de Frédéric qui m'écrit là tout de suite et qui dit qu'on a repéré des faucons pèlerins déjà depuis 2 mois du côté des Tours de la Défense. Eh bien on leur souhaite une bonne année, d'être en tout cas moins stressés que les gens qui y bossent, ce sera déjà pas mal. Alors on n'allait pas se quitter sans passer à table. Non, comment ça ? Il y a du CO2 dans mon assiette, ça peut aller à 20-30% quand même. Si vous importez des aliments qui font le tour de la Terre, ça ne va pas s'arranger. Alors, on va s'arrêter de manger ? On va mettre des bouchons aux vaches ? Non, pas du tout. On va simplement apprendre à compter notre CO2, notre énergie, comme on le fait régulièrement avec Elisabeth Laville. Mais les enfants, écoutez, il y a une solution.
Mes parents sont bio, 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 ne mangent que du bio, 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 ne boivent que du bio, 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 ne jurent que par bio. Chez nous, tout est bio, 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 le sel, il est bio, 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 la poêle, elle est bio, 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 y'a rien qui est pas bio. Mon père, c'est bioman, et ma mère, c'est sa femme. Ensemble, ils sont bio, 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 bio. Seulement voilà, en plus de ça, ils cuisinent tout à la vapeur. Y'a même plus un morceau de beurre. Et moi, je rêve d'un hamburger. Mes parents sont bio, 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 n'achètent que du bio, 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 ne parlent que de bio, 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 ne prient que pour bio. Leurs amis sont bio, 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 quand ils se voient bio, 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 c'est à celui qui bio, 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 sera le plus bio. Mon père c'est
bioman,
marié à biowoman. Ensemble ils sont bio, 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 bio. On mange des blettes ou bien des bêtes,
c'est la même chose.
Soit disant que c'est plein de vitamines, moi j'irais bien en prendre ailleurs. Par exemple dans un hamburger. À la maison bio, 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 même les rats sont bio, 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 même les claques sont bio, 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 tout le monde il est 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 bio.
Voilà. Eh bien oui, tout le monde dit les bio. C'était Pascal Parizeau, donc La vie en bio, vous l'avez compris. Extrait d'un livre-album pour les enfants et les plus grands qui s'appelle Les pieds dans le plat. Et vraiment, c'est un régal. Il y a plein de petites trouvailles. Alors, ça parle de la cantine, ça parle de différents aliments. Et c'est très, très bien. Voilà, j'espère qu'on vous a fait plaisir aujourd'hui, donc avec écologie et chansons. Et la semaine prochaine, eh bien, on vous parlera d'initiatives en tout genre avec des gens qui font. À la technique de cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, c'était Fabrice Desmas et Mathias Alléon. Merci cette semaine à Claire-Sophie Coulet, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza et Fanny Beauhuron. S'est régalée là pendant 3 semaines, donc qui a réalisé et mixé cette émission. Je n'oublierai pas non plus Sophie Le Doré. Programmation musicale d'Emmanuel Chupin. Anne Gouzon a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Vraiment, vous pouvez vous y rendre. Possibilité pour vous de réenregistrer cette émission pendant 1 semaine, de la réécouter pendant 4 semaines. Et puis elle sera rediffusée cette nuit dans l'émission de Brigitte Palchine, Nocturne. Et dans quelques instants, eh bien, vous retrouverez Fabienne Chauvière.
Question idiote peut-être, un proton fait le tour en combien de temps?
27 km à la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière, c'est 3 nanosecondes par mètre, donc faut que je calcule.
Non, on va poser la question différemment. Il fait combien de fois le tour en 1 seconde?
80 microsecondes. Mais 80 microsecondes à faire un tour complet. Ouais. Donc il fait à peu près 12 000 tours par seconde à peu près.
Voilà, avec elle, donc, vous irez du côté du CERN à la frontière franco-suisse en compagnie de Bruno Mansoulier. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end et encore une très très belle année. France Inter, il est 15h.